Vous êtes sur RTL. 14h30, 15h30.
On est fait pour s'entendre.
Avec Flavie Flamand sur RTL.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Peut-on aller bien dans un monde qui va mal? C'était notre sujet philosophie de ce lundi et c'était sacrément instructif et passionnant. C'est une émission à retrouver, vous le savez, dès maintenant sur les replays sur RTL.fr. En tous les cas, réfléchir ensemble tous les jours entre 14h30 et 15h30 et en direct sur RTL, mais également sur l'application RTL et RTL.fr puisque nous avons des caméras dans son studio et je vous regarde en même temps que je vous parle pour certains d'entre vous. Et bien donc, réfléchir ensemble, c'est un formidable antidote contre la morosité ambiante, alors soyez remerciés pour votre fidélité. Je vous le disais, c'est ce soir que sera diffusé un documentaire édifiant dans la case infrarouge sur France 2. Son titre, Jeunesse en fumée. Il traite du cannabis et ce que l'on y apprend est éclairant. Derrière une image plaisante, cool, dédramatisée, idéalisée du cannabis, se cache une réalité qui est bien moins positive. Sa consommation a de graves conséquences sur le développement du cerveau des adolescents. Il est en effet, écoutez bien, aujourd'hui 10 fois plus puissant qu'il y a 30 ans, peut-être d'ailleurs la période de votre premier pétard. Pourtant, en France, nos jeunes sont les plus gros fumeurs de cannabis d'Europe. Alors, avons-nous tous déjà fumé un joint? Quels effets recherche-t-on? Est-ce propre à la jeunesse? Comment bascule-t-on dans l'addiction? Et le cannabis est-il réellement une drogue douce? Voici la question que nous allons nous poser avec évidemment vos témoignages, mais également avec nos invités. Andrea Rawlings-Gaston, bonjour.
Bonjour Flavie.
Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes réalisatrice, hein, avec Christophe Astruc du documentaire Jeunesse en fumée qui sera diffusé ce soir à 22h50 sur France 2, je le disais, dans la case infrarouge présentée par Marie Drucker. J'y ai appris beaucoup de choses et je disais il y a un instant à Pascal Pro à regarder nous en tant qu'adultes, en tant que parents et je pense aussi avec nos adolescents. Est-ce que c'était aussi quelque part une forme de leçon de pédagogie éclairante que vous vouliez nous apporter à travers ce doc?
Les jeunes sont la colonne vertébrale de ce film. C'est vraiment eux qui ont accepté, à visage découvert, ce qui est extrêmement courageux, de parler aux plus jeunes, à leurs petits frères, à leurs petites sœurs, parce que, me disait-il, moi j'aurais peut-être aimé qu'on me dise ça, qu'un grand frère, une grande sœur me dise ce que j'ai à leur dire. Il n'y a pas de voix dans ce film parce que enfin, voilà, moi je ne me mets pas à leur place, personne ne parle en leur nom. Et c'est évidemment l'intention de ces jeunes.
Qui est de transmettre en fait leur expérience.
De prévention de père à père, voilà, que se crée un effet miroir entre eux et les plus jeunes.
Et les plus jeunes, parce qu'effectivement ces jeunes que vous avez rencontrés, qui vous le disiez témoignent à visage découvert, racontent leur expérience du cannabis qui commence par un pétard festif et qui se termine de façon évidemment plus inquiétante. On va y revenir, hein, on est ensemble jusqu'à 15h30. À vos côtés, le professeur Laurent Carilla. Bonjour professeur.
Bonjour madame.
Bonjour monsieur, merci d'être avec nous. Vous êtes psychiatre, spécialiste des addictions à l'hôpital Paul Brousse.
Exactement.
Porte-parole de SOS Addiction. Et d'ailleurs, on peut conseiller votre ouvrage à ceux qui nous écoutent. Addiction, dites-leur adieu aux éditions Mango. Je vais vous lire des messages qu'on a reçus qui ne vont pas vous surprendre évidemment professeur. Léo nous écrit sur Facebook. Oui, bon, moi j'ai fumé des pétards et alors c'est pas méchant comparé à certaines autres substances dont je n'ai jamais touché de ma vie. On a Aurélie qui nous écrit, oui, plusieurs fois j'ai fumé des pétards, ceux qui disent, oh là là, heureusement non, franchement, faut se détendre, pris de manière festive ou de manière détente, pas tous les jours, il n'y a aucun mal, tout cela reste une drogue douce. Et puis Elena, les pétards, de toute façon, moi, c'était lorsque j'étais ado. Est-ce qu'on minimise aujourd'hui, Laurent Carilla, l'effet du cannabis sur les jeunes en France?
Ben c'est un vrai problème. De toute façon, moi, je déteste le mot drogue douce, déjà. Toutes
oui,
les drogues
sais.
Sont des drogues.
Hein. Ouais.
Et oui, c'est un vrai problème chez l'ado. C'est un vrai problème chez l'ado, le cannabis, quand il est consommé de manière festive ou régulière. Le plus important, c'est, enfin, le plus risqué, c'est quand c'est régulier. Déjà, c'est vraiment un point important parce que il faut savoir que
le pétard c'est un truc festif, mais ça l'est pas que festif. D'ailleurs, on le voit dans le documentaire.
Tout est un peu festif, Flavie.
C'est un verre, c'est festif.
Ouais, on boit un verre, on fume une clope. Je sais pas, on échange des trucs sur Instagram. C'est festif tout ça. Mais il y a le problème de, on ne connaît pas la vulnérabilité de chacun. Donc il y a un risque qu'on ne peut pas mesurer et ce risque est réel chez les ados.
On le disait, Andrea Rawlings-Gaston, il y a des chiffres, hein, dans votre documentaire qui sont complètement dingues, et notamment effectivement que le cannabis que l'on aurait pu fumer nous lorsque l'on était jeune, on fait partie, on va dire, de la génération des plus anciens. Pas complètement ancien, mais quand même, quoi. Ce fameux pétard qu'on aurait pu fumer, nous, il y a 20 ou 30 ans, n'a rien à voir avec ce que nos jeunes mettent dans leurs joints.
Bah, je pense que le cannabis est la drogue de tous les quiproquos, en fait.
Ouais, c'est ça.
Le premier quiproquo, c'est... Alors, je sais, il n'y a pas de drogue douce, il n'y a pas de drogue dure. N'empêche que c'est plus du tout la substance qu'on fumait, qu'on pouvait fumer dans les années 90. Le taux de THC était aux alentours de 1 à 5% dans les années 90. Le THC, c'est la substance psychoactive, celle qui défonce, mais celle qui rend plus addictif, plus addict aussi. Elle est aujourd'hui autour de 15% pour l'herbe, de 25% pour la résine. Et... c'est vrai que les jeunes que j'ai pu rencontrer, notamment au service
du professeur Carilla,
j'étais en immersion parce qu'avant de tourner, effectivement, j'ai fait une enquête de plusieurs mois. Et c'est vrai que beaucoup de jeunes pensent encore que c'est bio, que c'est naturel, que c'est beaucoup moins nocif que le tabac qui est associé à la maladie, au cancer. Et il y a aussi un amalgame avec le cannabis thérapeutique qui n'a rien à voir avec ce que fument les ados.
Hein.
Mais complètement. Mais il y a quand même cette idée que oui, c'est cool. Et bah, la preuve, c'est utilisé pour soulager les douleurs de personnes malades.
Alors, on reviendra un peu plus tard sur le cannabis thérapeutique. On va faire un petit point quand même. Hein.
Oui.
De quoi est composé le cannabis? Vous allez nous dire ça dans un instant, professeur Carilla. Et puis Frédéric interviendra sur cette antenne. Il a commencé d'une façon festive. Et puis un jour, il a oublié les rendez-vous. Et puis un jour, il avait perdu la motivation. Et puis un jour, il a compris que sa vie basculait. On se retrouve dans un instant. Nous sommes en direct avec vous sur RTL. À tout de suite.
Flavie Flamand sur RTL. Flavie Flamand sur RTL.
Jusqu'à 15h30.
Et tout de suite, c'est maintenant. En direct avec vous jusqu'à 15h30. En compagnie d'Andrea Rollings-Gaston, qui est co-réalisatrice avec Christophe Astruc d'un documentaire Jeunesse en fumée diffusé ce soir sur France 2 qui traite du cannabis. Le professeur Laurent Carilla, qui est psychiatre et spécialiste des addictions à l'hôpital Paul Brousse. Bah oui, vous êtes professeur. Donc maintenant que vous êtes professeur, c'est un honneur pour moi de vous recevoir,
merci,
mon cher
Flavie,
Laurent.
Moi aussi, ça
on parle aujourd'hui donc du cannabis. Certains qui nous disent ouais, bon, ça va, c'est cool, le cannabis, c'est un petit pétard festif. C'est moins grave que certaines autres substances. Il vaut mieux. Il y a certains parents, on y reviendra avec un témoignage de Johanna dans un instant. Certains parents qui disent bah limite, il vaut mieux que tu fumes un pet que de fumer des clopes tous les jours. Voilà, on va parler de cette vision un peu édulcorée et romancée du cannabis. On parlera, pour ceux qui sont déjà grincheux dès le début de l'émission et qui disent « Oui, mais vous ne parlez pas du cannabis thérapeutique », on va vous en parler, c'est prévu dans cette émission, mais ce sera pour plus tard. Et surtout, on peut le dire tout de suite, ça n'est pas du tout la même chose, professeur Carilla. Donc faites bien déjà la différence entre le cannabis et le cannabis thérapeutique, et vous comprendrez pourquoi dans un instant. Mais pour l'heure, on accueille Frédéric sur cette antenne. Frédéric, bonjour.
Bonjour.
Soyez le bienvenu sur RTL, Frédéric. Merci d'être avec nous. Vous avez une quarantaine d'années. À quel âge avez-vous fumé votre premier pétard ?
À 17 ans.
Ok. Alors, est-ce que c'était ce qu'on appelle un joint festif ?
Oui, c'était vraiment un joint festif. Bon, certains copains fumaient, et puis lors d'une soirée, j'ai dit « Allez, on va essayer ».
D'accord. Vous avez essayé de fumer un joint comme on peut essayer un premier verre d'alcool ou comme on peut essayer une première cigarette ? C'était comme
voilà,
ça.
On va voir ce que ça va faire. Bon, les copains le font et puis on est entraîné et puis voilà.
C'était comment ? Ça vous a fait quoi ? C'était bien.
C'était pas mal. C'était
ouais. Bien. Alors justement, mais on va revenir là-dessus. Qu'est-ce que vous entendez par c'était bien, c'était pas mal ?
Bah, une certaine ivresse, une certaine détente, une sensation agréable. Je peux pas nier ça. C'était vraiment pas mal. On a passé une bonne soirée.
Est-ce que c'est ce qui explique que vous y soyez retourné et que vous ayez eu une consommation finalement plus régulière ?
Oh oui, bien sûr. Oui, si. Bon, pas de d'effets secondaires, pas de problèmes particuliers. Donc pourquoi pas un deuxième ?
Voilà, c'est ça.
Et pourquoi pas un troisième ?
Parce que c'est comme ça que s'installe finalement une consommation plus accrue. Hein. C'est parce que c'est bon, on va pas se mentir, Laurent Carilla.
Ouais,
on va pas raconter d'ânerie, quoi.
Ah ouais, hein.
C'est
cerveau,
bon, mais c'est mauvais.
Le cerveau s'habitue, tout à fait.
Et s'habitue à des effets qui sont des effets quoi, Laurent Carilla ? Comment
fait,
on peut les définir ?
Ce qui se passe, c'est que quand on prend une drogue, c'est pareil que quand on mange, on boit ou on fait l'amour. Vous voyez les sensations ? Donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir, donc on va y retourner. Après, il y a des facteurs de protection suivant les individus. Il y en a qui ne vont pas y retourner forcément sur les drogues, parce qu'ils vont faire un épisode où ils sont un peu angoissés, ils sont un peu inquiets, et hop, ils n'y vont pas. Mais si vous prenez un produit qui vous procure du plaisir, de l'euphorie, du bien-être, une sensation de plénitude, et ben vous y allez. Vous prenez n'importe quel exemple, toutes les trois de votre vie perso, quelque chose qui vous fait plaisir, vous y retournez. Mmh. Donc le cerveau, il s'habitue comme ça. Mmh. Et après, comme c'est une drogue, ça va dérégler les circuits cérébraux. Et quand ça les dérègle, eh ben, on est dans une autre situation, et on est dans une situation pathologique.
Est-ce que vous avez senti que vos circuits cérébraux, comme le dit si bien le professeur, étaient en train de se dérégler, Frédéric? Parce que c'est sournois, finalement, l'addiction.
Non, pas tout de suite, ça s'est fait très très progressivement. C'est resté festif quelques temps, et après, je dirais que la bascule, c'est le jour où j'ai fait mon premier pétard seul. Ouais,
c'est seul à la maison.
Seul à la maison, oui.
D'accord. Donc en fait, au début, c'était pendant des soirées, ensuite c'était avec des potes, et d'une façon plus régulière, et puis un jour, vous êtes allumé votre joint tout seul.
Voilà, c'est ça.
D'accord. Qu'est-ce que ça vous apaisait, nous avez-vous dit? Mais alors justement, quand on fume un joint tout seul, c'est pas festif, on fait pas la java tout seul, vous voyez ce que je veux dire? On se bidonne pas tout seul sur son canapé. Donc ça veut dire quoi? Ça aide à dormir? Ça facilite un quotidien? Ça apaise des angoisses?
Ça, je dirais pas apaiser des angoisses à ce moment-là. C'était une certaine ivresse, rentrer dans un autre monde, un bon verre, c'est encore différent. C'est pas le même exemple, mais d'avoir une certaine rentrer dans un autre univers, voilà, rêver. Pour moi, ça me détendait beaucoup, et puis j'aimais bien la sensation.
Est-ce que vous vous êtes rendu compte par ailleurs que ça commençait à avoir des effets concrets aussi, et plus néfastes, plus emmerdants, je dirais, sur votre quotidien?
Alors je l'ai constaté au bout de. J'aurais pu vous dire exactement les délais, mais oui, arrivé un moment, j'ai commencé à oublier des rendez-vous.
Ouais.
Oublier une répète de musique. Ou devenir avoir lors d'une répétition, me retrouver sans oublier ma partition. Bref, des petits accidents quotidiens, de troubles de la mémoire, parce que c'est faut dire ça, les choses comme elles sont. Qui m'ont handicapé et qui m'ont causé des petits soucis dans ma vie sociale, en fait.
Vous avez fait le lien tout de suite avec la prise de cannabis ou
Non, pas du tout, non.
D'accord.
Non. J'étais encore jeune. Trouvais que on râlait parce que j'oubliais quelque chose ou que je dirais ces adultes là, ils me cassent un peu la tête, quoi.
Ouais.
Voilà. Et puis je voyais pas les choses. Non, c'était eux qui avaient tort. C'était pas moi. Moi, je faisais rien de mal. Je me rendais pas compte que je commençais à me mettre un petit peu à côté, quoi, en marge.
Ouais. On va se retrouver dans un instant, Frédéric, parce que effectivement, vous parlez de désociabilisation. On finit par avoir un entourage qui a un lien avec nous, et qui est ce fameux lien, c'est la prise de cannabis. Donc la vie change et tourne aussi autour de la consommation de la substance. Et vous nous expliquerez, Frédéric, un jour, vous avez une révélation. Hein, et parfois, c'est bon d'avoir une révélation parce que ça nous permet de prendre le large de ce genre de choses. Oh oui, ce sera dans un instant avec vous en direct sur RTL. À tout de suite, Frédéric.
RTL. Fait pour s'entendre. 14h30, 15h30.
On est fait pour s'entendre.
Avec Flavie Flamand sur RTL.
Frédéric, vous êtes en ligne avec nous. Merci pour votre confiance et votre témoignage sous l'oreille avertie d'Andrea Rawlings-Gaston et professeur Laurent Carilla, qui sont nos invités. Frédéric, vous nous avez expliqué que vous avez découvert le cannabis comme plein d'entre nous, hein, finalement, 17 ans, soirée, petit pet festif. Sauf que vous avez poursuivi quand d'autres se sont arrêtés dans la consommation. Et puis un jour, vous êtes rendu compte que vous fumiez tout seul, que vous commenciez à avoir des pertes de mémoire, que vous oubliez vos rendez-vous, vos partitions quand vous alliez faire de la musique, et que de toute façon c'était toujours les autres qui vous cassaient les pieds, mais c'était jamais vous qui aviez tort. Et puis un jour, vous avez peut-être aussi réalisé que votre entourage tournait principalement autour de la consommation.
Oui, disons que on se crée son entourage autour du cannabis, autour des copains qui fument, autour des gens qui nous approvisionnent aussi également, on va dire des choses aussi.
Ouais, alors juste...
Ensuite, on ne fait pas attention, on ne fait plus attention aux autres. Enfin, c'était mon cas, et je me mettais vraiment en marge de la société, parce que ça devenait quotidien. Je fumais tous les jours.
Vous fumiez plusieurs joints par jour?
Pas tout le temps, non.
D'accord.
Non, mais c'était quotidien quand même, et suffisamment nocif pour me mettre vraiment en marge de tout le monde.
D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé qui a fait qu'à un moment donné, vous avez arrêté ?
Bah, quand j'ai rencontré une fille qui ne m'a jamais rien dit sur le fait que je fumais, ne m'a jamais jugé, ne m'a jamais fait de reproches, elle ne fumait pas, elle ne buvait pas d'alcool non plus. Et je me suis rendu compte par ses amis que j'étais différent, que je ne côtoyais pas les mêmes personnes, que j'avais pas les mêmes centres d'intérêt. Et donc je me demandais si c'était eux qui étaient bizarres ou si c'était moi. Et puis, bon, à force de discussion, j'aimais beaucoup cette fille. Et bon, voilà, de discussion, je me suis rendu compte que c'était moi qui avait créé ma vie autour du cannabis et que ma vie ne tournait qu'autour de ça. Et que je souhaitais peut-être plus qu'elle tourne autour d'elle et non plus autour du cannabis.
Ce que disait Laurent Carilla, ce qui nous fait du bien, c'est boire, c'est manger et c'est faire l'amour.
Exactement.
Et l'amour est une autre forme d'addiction.
Exactement.
Et qui peut nous emmener très loin.
Ouais,
et
très
parfois
loin.
Dans de très belles choses,
c'est
de
vrai.
Très belles résiliences. Professeur Carilla, qu'est-ce que vous retenez du témoignage de Frédéric qui, à un moment donné, s'est rendu compte, je voudrais qu'on parle de ça, hein, des effets néfastes de la consommation du cannabis.
Dans ce témoignage qu'on entend, c'est qu'il y a une consommation qui devient autothérapeutique, c'est-à-dire que on consomme seul, on consomme pour s'évader, enfin c'est un effet anesthésiant, un effet peut-être tranquillisant, un effet peut-être antidépresseur, et qu'à un moment, il y a un impact de cette consommation qui devient régulière, c'est-à-dire il y a ce qu'on connaît classiquement des troubles de la mémoire, mais ça impacte aussi l'attention, ça impacte aussi la concentration, ça impacte aussi le contrôle des choses, c'est-à-dire que on contrôle plus rien, puisqu'on est dans un phénomène d'addiction, donc quelque chose de négatif, et avec des répercussions sociales, d'accord. Donc j'oublie mes partitions, j'oublie des rendez-vous, j'oublie de me réveiller, enfin tout ce qu'on peut tout imaginer. Et bon, il y a cette femme qui vient au milieu de cette histoire, mais je pense que le déclic, il ne vient pas que de ça, en fait.
Mm-hmm.
Je pense qu'il y a d'autres facteurs chez... Je ne sais plus votre prénom, mais...
Frédéric,
il y a d'autres facteurs probablement protecteurs qui l'aident à s'en sortir, parce que dans quand même... l'immense majorité des cas, c'est pas si facile que ça.
Alors, on reviendra sur la difficulté tout à l'heure à arrêter avec Johanna. Le cerveau, ça, est-ce que c'est dangereux pour notre cerveau de fumer, professeur Carilla ?
Quand on est jeune,
on va revenir sur les cerveaux en formation parce que c'est traité dans le documentaire.
Oui, le cerveau en formation. Le cerveau fini, moi j'appelle ça la puberté cérébrale.
Ouais.
La puberté cérébrale, elle s'achève autour de 20-25 ans.
Donc nous, c'est fini à notre âge, la puberté cérébrale.
Oui, après ça dépend des hommes plutôt, mais bon.
Ouais.
Les femmes, oui, vous êtes très précoces, votre cerveau mature, pubère, etc. Mais en gros, la puberté cérébrale, c'est 20-25 ans. Donc ça veut dire que si c'est pas fini, le cerveau n'est pas fini, tout ce qu'on apporte d'exogène, d'extérieur au cerveau, eh ben ça peut le martyriser. C'est-à-dire l'architecture ne se fera pas bien. Donc quand vous amenez du cannabis, et dans le cerveau il y a plein de récepteurs pour le THC, qui est la substance responsable de l'addiction, eh ben ça altère l'architecture du cerveau. Bon, ça peut être réversible s'il y a une faible consommation, s'il y a une réversibilité et s'il y a un arrêt précoce.
On le voit d'ailleurs dans votre documentaire, Andréa, les conséquences sur le cerveau.
Il y a beaucoup d'études qui ont été faites, alors je parle sous le contrôle de monsieur le professeur, mais c'est vrai que notamment sur le QI, notamment une étude néo-zélandaise qui montre une étude longitudinale, c'est-à-dire vraiment réalisée sur du très long terme, que des adolescents qui ont commencé à fumer jeunes et de manière régulière ont une perte de 8 points de QI à l'âge adulte. Bon, alors l'étude est moins optimiste que monsieur Carilla, c'est
sur
irréversible.
Il y a un côté, il faut être prudent. Les études longitudinales, c'est très très bien, c'est des suites cohortes sur du long terme, mais tout le monde n'est pas égal face au cannabis. Il y a ce point-là, il faut quand même rassurer les gens. C'est parce que les parents vont flipper si on leur dit vous allez perdre tous vos gosses, vont perdre 8 points de QI, tout le monde va flipper. Donc ça a un impact.
C'est un message préventif en tout cas.
Oui, c'est un message préventif. Mais il faut dire que s'il y a des problèmes, parce que le cannabis c'est pas le seul problème chez les ados, il y a d'autres problèmes en dessous, il faut traiter la globalité des choses précocement, rapidement, avec une équipe.
Bien sûr. Est-ce que ça a été difficile, Frédéric, pour vous d'arrêter?
Oui, très compliqué. Après, il y a des éléments qui ont aidé. Vous parliez de problèmes au niveau cérébral. Et je vais vous donner un exemple. Lors d'une soirée chez des amis de ma copine, on faisait une soirée jeu de société. tout le monde s'amusait bien. Il n'y avait pas de pétard, il n'y avait pas de cannabis, il n'y avait rien. Moi, j'avais fumé avant d'y aller. Personne n'était au courant. Je me suis retrouvé perdu lors de la partie du jeu de société. Et ça m'a fait peur. Je me suis dit, mais c'est qu'un jeu de société, je suis à l'ouest, ça va pas. Et c'est moi qui va pas. Tout le monde s'amuse, tout le monde passe une bonne soirée. Et j'ai été pris d'une angoisse, qui est souvent l'un des effets indésirables, des fois, du cannabis. Et ça m'a aidé. Ça m'a aidé à prendre conscience aussi.
Écoutez, je vous remercie pour votre témoignage, hein, qui était très éclairant, Frédéric. Voilà, je vous souhaite évidemment le meilleur à vous, à votre épouse, à votre petit garçon de 7 ans aussi.
Merci.
Et à qui, j'imagine, vous parlerez aussi de votre propre expérience à titre préventif, parce que c'est toujours très important de protéger nos enfants. Merci à vous en tout cas, et à bientôt sur l'antenne d'RTL. Nous, on va faire un tour par l'information. On reprendra juste après, si vous le voulez bien, avec Johanna, qui apparaît dans votre documentaire et qui nous raconte son parcours. Qui est aussi très éclairant. À tout de suite sur RTL.
Flavie Flamand sur RTL. Flavie Flamand sur RTL jusqu'à 15h30.
Allez, on poursuit notre conversation aujourd'hui, conversation de prévention, parce que l'on vous conseille le livre du professeur Laurent Carilla, Addiction, dites-le radio aux éditions Mango, et le documentaire édifiant réalisé par Andrea Rawlings-Gaston dans la case infrarouge de France 2, Jeunesse en fumée, on s'intéresse au cannabis. Alors on vous a posé la question, est-ce que vous avez tous déjà fumé un joint? Alors certains, jamais, on n'a pas été tentés, m'écrit Pat GB sur Facebook, grand bien m'en fasse, surtout après avoir vu des gens qui fumaient, je sais que certains vont parler d'alcool pour atténuer le problème du cannabis, mais comme j'aime à le dire, ce n'est pas parce qu'on a un pied dans la merde qu'il faut mettre le deuxième. Alors, non mais il faut le dire, il n'y a pas, et ça c'est vrai, on le retrouve d'ailleurs dans votre documentaire, Andrea, il n'y a pas de substitut
au cannabis. Qui rend le décrochage aussi si compliqué, c'est que quand on fume, on peut prendre des patchs à la nicotine, bon, l'héroïne c'est pas simple, mais il y a des substituts. Le cannabis, il n'y a aucun substitut.
Mais il y a des stratégies pour aider les gens.
Évidemment. Alors ces stratégies, il faut pouvoir les mettre en place. Il faut avoir cette prise de conscience dont nous parlait Frédéric il y a un instant. Tous les jeunes que vous avez interviewés dans ce documentaire et qui sont tous hyper touchants dans leur parcours et qui témoignent à visage découvert ont conscience de l'addiction dans laquelle ils sont tombés, Andrea.
Oui, c'est bien pour ça qu'ils ont décidé de prendre la parole à visage découvert pour éviter à peut-être d'autres jeunes de tomber dedans aussi. Bon, évidemment, c'est pas aussi simple que ça. Mais en tout cas, eux ont conscience que l'addiction, enfin que le dérapage a démarré au moment du premier joint perso, tout seul. Voilà. Et ils ont tous conscience que ça venait remplir quelque chose, anesthésier quelque chose. Soit voilà, du stress, soit on est mal dans sa peau, soit il y a de la violence à la maison. Enfin, en tout cas, ils ont tous basculé dans une addiction au moment où ce n'est plus devenu récréatif du tout, mais que c'est venu compenser et anesthésier des choses de la vie personnelle.
Et notamment parfois aussi le désœuvrement, on y reviendra. Je disais que la prise de conscience, c'est le premier pas.
Oui, c'est le premier pas. C'est valable pour toutes les substances. Hein.
Absolument. Voilà. Oui, mais déjà, mais ça ne veut pas dire pour autant que ce sera facile. Mais vous nous avez expliqué que justement, il y a des chemins que l'on peut emprunter. Dans ce documentaire, on retrouve donc Johanna. Johanna, elle le dit dans le documentaire. Hein, le cannabis est un ami. Elle était mal dans sa peau. Elle se sentait seule. Elle n'était pas super heureuse dans les cours. Maintenant, ça va mieux parce que je crois qu'elle a emprunté en tout cas un chemin dans la comédie. Et ça a anesthésié ses sentiments. Bonjour, Johanna.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, Johanna. Vous avez 22 ans, on vous retrouvera dans le documentaire ce soir. Vous racontez votre parcours et c'est extrêmement touchant. Et on laissera nos auditeurs le découvrir. Ça a duré quand même quelques années, hein, cette histoire. Hein.
Oui.
Et ça dure toujours.
J'ai 24 heures maintenant, en fait.
Vous avez 24 ans maintenant.
Oui,
pardonnez-moi. Vous voyez, alors moi, j'adorerais qu'on m'enlève 2 ans. Hein, mais c'est marrant, à votre âge, on est content de dire qu'on en a 2 de plus. C'est quand même fou. Vous allez voir, ça n'a pas duré 107 ans, cette histoire. Ça apaise et c'est en même temps un couteau dans le cœur. C'est-à-dire que vous avez compris à un moment donné les effets doux de cette consommation de cannabis qui anesthésiait vos sentiments et votre mal-être. Mais par ailleurs, vous étiez emprisonnée dans cette relation qui vous faisait du mal aussi.
Bah oui, en fait... Le cannabis aidait énormément pour la déprime, la mauvaise estime de moi. Mais j'ai des problèmes avec l'angoisse Et le cannabis a beaucoup, beaucoup augmenté mes angoisses.
Voilà, parce que il faut le dire aussi, hein, professeur Carilla, c'est-à-dire que parfois, comme l'alcool d'ailleurs, hein, ça vient apaiser un temps les angoisses, mais ça les exacerbe de toute façon par ailleurs.
Exactement.
C'est pire,
exactement.
Faut le dire. Hein.
Exactement.
Ouais. Ouais. Alors, Johanna, vous en êtes où aujourd'hui, puisqu'on on aborde maintenant le volet de comment arrêter. Vous en êtes où?
Aujourd'hui, je fume quasiment plus. En tout cas, je fume que le week-end.
Ouais.
Et pas la semaine, du coup, vu que j'ai repris les cours.
D'accord. Et que là, vous avez des cours qui vous passionnent.
C'est ça.
D'accord. Donc, c'est important, effectivement, de pouvoir se réaliser. Parce que quand on se réalise, peut-être qu'on a moins besoin de fumer. Johanna, est-ce que je peux vous demander quelle était votre consommation quand vous étiez au maximum de la dépendance?
Ça tournait autour d'une dizaine de joints par jour.
Donc vous étiez, je peux le dire comme ça, vous étiez stone en fait à longueur de temps?
Bah plus vraiment au final, parce qu'il y a une certaine accoutumance qui se crée.
Ouais.
Et j'étais tellement habituée que j'étais plus stone du tout.
Ça a été difficile de passer de 10 joints par jour à un joint festif le week-end?
Bah ça s'est passé comme ça de 10 à 1. Hein.
Ouais.
Mais ça a été progressif et le fait de trouver ma voie, ça m'a beaucoup aidée.
Vous vous sentez mieux maintenant?
Oui.
Non, mais est-ce que vous vous sentez mieux comme, vous voyez, moi j'ai fumé un temps et puis après j'ai arrêté de fumer, bah, je me suis sentie vachement mieux en ayant arrêté de fumer, quoi. Les bénéfices de ça ont été plus forts que le reste. Est-ce que vous le ressentez, vous?
Non,
c'est
pas
encore
vraiment
si clair que ça. D'accord, ok.
C'est pas si clair que ça parce que mes problèmes dans ma vie ne viennent pas et ne venaient pas que du cannabis.
Ouais,
mais
oui,
j'ai
ça.
D'autres problèmes à résoudre de mon côté. Qui ne dépendent pas du cannabis.
Je comprends. On va se retrouver dans un instant, Johanna, hein, si vous le voulez bien. OK?
Oui.
À tout de suite sur RTL.
RTL.
Flavie Flamand. 15h30.
Flavie Flamand sur RTL.
C'est-à-dire dans 3 jours. Johanna est en ligne avec nous. Vous la retrouvez ce soir dans le documentaire Jeunesse en fumée. On reçoit des messages, professeur Carilla Andrea Rawlings, que je vais vous lire parce qu'il va falloir qu'on réagisse à ce qui se dit. Néanmoins, on va terminer juste avec Johanna. Votre histoire, on va la découvrir ce soir dans le doc. Aujourd'hui, donc, les choses sont difficiles, mais néanmoins, vous venez de souligner que vous avez fait un grand pas. Vous ne fumez que le week-end maintenant. Et vous le dites, et ça c'est sûrement important parce que c'est un des facteurs, j'imagine, aussi de la dépendance, c'est que vous ne vous sentez pas spécialement mieux puisqu'en fait vous fumiez pour apaiser des douleurs qui sont toujours là. Donc les problèmes sont ailleurs. Comment est-ce que vous envisagez l'avenir aujourd'hui?
C'est une question un peu complexe, mais...
Non, mais est-ce que votre but c'est d'arrêter complètement?
À terme, oui.
Ouais, d'accord. Mais c'est quelque chose de progressif.
C'est quelque chose de progressif, oui.
Professeur Carilla, est-ce qu'on arrête brutalement? Je sais que les choses ont beaucoup évolué, ne serait-ce que si sur l'addiction à l'alcool. Voilà,
ouais, il y a plein de stratégies. Il y a pour le cannabis, déjà, quand il y a le cannabis, il y a le tabac. Donc, il faut prendre en compte les deux substances. On n'est pas en Jamaïque, ici, on ne fume pas des joints d'herbe. Donc, il y a ces deux substances-là. Et comme le dit Johanna, c'est que le cannabis, finalement, c'est que la face émergée d'un problème. C'est-à-dire que, moi, je prends toujours la même métaphore, c'est-à-dire un arbre. Vous regardez un arbre dans la rue, vous regardez les branches, mais vous ne voyez pas les racines. Les branches, c'est toutes les addictions. Les racines, c'est tout ce qu'il y a. Donc, la souffrance psychique, le traumatisme, etc. Donc, il faut prendre en compte la globalité des choses. Donc, dans la stratégie, je vais traiter la branche, donc le cannabis, c'est, oui, on va aller sur un sevrage, on va arrêter. Et ce sevrage, il peut se faire soit d'un coup, avec une aide médicale, infirmière, psychologique, etc.
Donc, un accompagnement, je dirais, pluridisciplinaire.
Un accompagnement, c'est ça, pluridisciplaire, une stratégie plurimodale, multimodale, soit à l'hôpital... En hospitalisation, on se fait hospitaliser, soit en ambulatoire, c'est-à-dire on vient en consultation. Et la stratégie, elle peut passer d'abord par la réduction de la consommation.
D'accord. La réduction progressive,
voilà.
et la prise en charge, voilà, d'autres choses,
voilà.
En parallèle. C'est pas comme à une époque où on disait t'arrêtes du jour au lendemain.
Non, parce que ça marche pas.
Voilà,
ça marche pas. Même les
d'accord.
mots, tout à l'heure on disait drogue douce, drogue dure.
Exactement.
Il y a aussi la volonté. T'as pas de volonté d'arrêter.
Ouais.
Ça aussi, il faut bannir du langage ces trucs.
Ouais.
C'est ça qui est important. C'est, il faut se faire accompagner.
dans la globalité.
Johanna, on reçoit des messages de gens qui nous disent « Mais arrêtez comme ça avec le pétard, ça suffit, Sébastien. Je suis fumeur régulier, ça fait 30 ans, je me considère absolument pas comme toxicomane. Je trouve même que ce terme sème la confusion dans l'esprit des gens les moins bien informés. » Alors vous qui êtes justement, qui avez vraiment vécu avec le cannabis à raison de 10 joints par jour, quel message est-ce que vous voudriez justement faire passer à ceux qui nous écoutent et qui sont encore en train de nous écrire en disant « Ça va, vous faites une émission en nous expliquant que c'est grave alors qu'en fait, en réalité, ça ne l'est pas. »
Alors, j'aimerais dire que le cannabis, c'est différent pour chaque personne. Chaque personne va réagir différemment. Mm-hmm. Il y a peut-être des gens qui arriveront bien à vivre avec ça, qui géreront peut-être leur addiction, mais même très bien gérer, et, ou même chez qui le fait de consommer ne va pas les impacter plus que ça, sauf qu'il y a beaucoup de gens, comme moi par exemple, pour qui la consommation a été le déclencheur de certaines angoisses et de certaines choses que j'ai du mal à contrôler aujourd'hui.
Donc, quelque part, ce documentaire qui sera diffusé ce soir est là aussi pour faire passer ce message que vous venez de nous dire. C'est important aussi de le préciser, c'est-à-dire que c'est pas tout blanc ou tout noir, on est bien d'accord.
Voilà, c'est pas tout blanc, tout noir, c'est des nuances de gris. Et effectivement, les jeunes aujourd'hui ont tendance de plus en plus à fumer. Et il y a certaines personnes, on va dire un grand nombre, chez qui ça peut développer des problèmes, quoi.
Et je le disais en début d'émission, hein, les jeunes Français sont les plus gros consommateurs de cannabis en Europe. Hein.
Oui, surtout votre auditeur qui a écrit, bon, il a 30 ans aujourd'hui, je ne sais pas à quel âge il a commencé à fumer, mais le produit, je le répète, a énormément changé. Ce n'est plus du tout ce truc un peu planant, léger, avec des taux de THC hyper légers.
Comprenez, en courant tout dans les champs, quoi.
Voilà, ouais. Aujourd'hui, le produit est beaucoup plus fort et sur des cerveaux en formation à l'adolescence, avant 20-25 ans, ça peut avoir des effets beaucoup plus nocifs que peut-être à son époque.
Professeur Carrella.
Moi, je suis d'accord. Il faut pas prendre en compte que le taux de THC, hein, mais il y a aussi la personnalité, il y a l'environnement, il y a les facteurs génétiques, etc. qui jouent. Hein.
Comme l'alcool, comme le tabac,
exactement.
Comme toutes
personne n'est égal face à une substance et personne ne va développer la maladie de la même façon. Et encore une fois, on ne gère pas une addiction. Quand on a une addiction, on a une maladie et il faut se faire aider et soigner.
Alors, il y a David, il est en pétard, il nous a envoyé un mail que je vais vous lire.
Alors,
dans un instant. Dans un instant, je vais vous le lire et je vais vous demander d'y répondre. Johanna, merci beaucoup en tout cas d'être intervenue sur cette antenne. Il y a Andrea qui vous salue,
merci,
Johanna.
Moi aussi, Johanna, merci. Hein. Voilà. J'ai vu à votre témoignage.
Merci à vous.
Et voilà, et on a à peu près le même âge, donc voilà, prends soin de toi. Voilà, je te tutoie. Merci Johanna, on te retrouve ce soir sur France 2. À bientôt sur cette antenne.
À bientôt.
Salut Johanna.
On est fait pour s'entendre, Flavie Flamand sur RTL.
Flavie Flamand sur RTL, jusqu'à 15h30.
Bon, alors certains nous parlent de la première fois qu'ils ont fumé, comme Céline. J'ai fumé un seul pétard et je suis tombée dans les pommes. Avec le recul,
c'est un facteur.
M'a calmé direct.
C'est un facteur calmant.
Voilà,
il y a ça, les crises d'angoisse et les bad trips.
J'ai essayé, moi, il y a 10 ans seulement.
Ouais, vous avez déjà fumé, vous?
Une fois, il y a 10 ans, et j'ai tiré, ça m'a fait j'ai eu des angoisses épouvantables.
Et vous avez plus jamais recommencé.
Plus jamais, moi je veux plus toucher à ces trucs-là. Diane et Mika nous écrivent, c'est le tabac qui provoque une addiction et non le cannabis en lui-même. Réponse de Laurent Carrella, professeur.
Il faut arrêter, c'est ceci ou ça. Le tabac, c'est addictif. Le tabac, c'est la substance la plus addictogène qui tue beaucoup de monde. Le cannabis, c'est une substance addictogène puisqu'elle agit sur le cerveau, elle modifie les circuits cérébraux. Donc, c'est la définition d'une substance potentiellement addictogène.
Donc, voilà, ça, c'est le message pour Diane et Mika. Voilà. Ça n'est pas que le tabac, cannabis aussi.
Il y a une potentialisation des deux.
Très bien. Donc, les deux, évidemment, ça fait un cocktail.
Plus.
Voilà. Alors, David, par mail, pourquoi à chaque émission sur le cannabis, vous ne parlez jamais des nombreux pays qui s'en servent en médecine, le retard et les mentalités en France feraient bien d'évoluer. La question restante est pourquoi toujours diaboliser une simple plante qui soulage des milliers de personnes? Merci Big Pharma et merci les journalistes. On vous remercie David, mais on va laisser le professeur Carrella vous répondre.
Donc Flavie, vous me connaissez, moi je diabolise rien, je banalise rien, j'ai un côté un peu rock'n'roll, vous savez. Donc l'idée, là d'abord la question, elle n'a aucun rapport avec l'émission d'aujourd'hui. Ça serait la question sur la légalisation du cannabis, est-ce qu'une légalisation contrôlée est envisageable?
Et qui fera l'objet d'une autre émission.
Voilà, c'est autre chose.
Bon.
Moi, je suis suis pour la ligation contrôlée, mais pas contrôlée, ça veut dire qu'il y a des populations qu'on ne touche pas. Donc la population qu'on va voir dans le documentaire ce soir, elle ne concerne pas cette histoire de légalisation et c'est délétère pour les ados.
Alors je voudrais maintenant que vous nous expliquiez que ça n'est pas la même chose, que nos auditeurs le comprennent.
Exactement. Le cannabis thérapeutique, comme son nom l'indique, c'est thérapeutique. Ça veut dire que c'est pour des certaines indications. C'est pour des douleurs réfractaires, pour des maladies neurologiques importantes, pour des douleurs cancéreuses. Vous voyez, on est dans cette idée de, par exemple, de douleur. On va prendre le thème de la douleur. C'est des douleurs qui résistent au traitement habituel. Et ben, on va utiliser ce cannabis pour soulager les gens. Voilà, c'est ça un peu.
Est-ce que c'est le même cannabis que celui qu'on fume ?
Non, c'est pas la même chose.
Voilà.
C'est pas la même chose. C'est un médicament. Il y a des certains taux de THC, de certains taux de cannabidiol.
Voilà, il faut dire CBD. De quoi est formé le,
oui,
le THC,
le CBD. Donc il y a des proportions, alors on va pas entrer dans les détails, mais c'est comme un médicament, donc il y a certaines doses et il y a certaines posologies pour calmer les gens.
Voilà, et qui ne sont pas les mêmes que ce fameux cannabis
qu'on achète à l'arrache.
Et qui constitue un joint.
Est-ce qu'on peut comparer ça, parce qu'on avait fait cette comparaison, c'est la même chose que si on comparait l'héroïne et la morphine, c'est-à-dire c'est la même plante, mais dans un cas c'est un produit nocif, dans un autre
c'est un produit thérapeutique.
C'est extrêmement compliqué cette comparaison, parce que l'héroïne et la morphine, comme vous dites, c'est la même chose, c'est dérivé, l'héroïne est dérivée de la morphine, mais en termes d'impact sur le cerveau, ça agit exactement pareil. C'est-à-dire que on pourrait envisager, dans certains cas, même dans certains pays, ils utilisent l'héroïne médicalisée. Donc on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est pour vous dire que on peut être défoncé à la morphine comme on est défoncé à l'héroïne. Et d'ailleurs, les problèmes actuels sur cette question-là des opiacés, les gens se défoncent plutôt maintenant avec des médicaments antalgiques,
oui, c'est vrai,
morphiniques.
Terrible, terrible.
C'est ça a remplacé l'héroïne. Mmh. Donc alors que le cannabis thérapeutique, je pense que ça va être difficile de se défoncer au cannabis thérapeutique.
Bah déjà, il ne sera pas fumé.
Dans l'immense majorité des cas, oui, non, il ne sera pas fumé.
En tout cas, ce soir, je vous conseille ce documentaire que vous retrouverez à 22h50. C'est sur France 2, dans la case infrarouge, présenté par Marie Drucker. Donc, c'est un documentaire co-réalisé par Christophe Astruc et Andrea Rawlings-Gaston. Je vous remercie d'avoir été notre invité, Andrea.
Merci à vous, Flavie.
Et moi, je voudrais vous remercier à titre perso parce que j'ai découvert, j'ai appris plein de choses. Pourtant, cette émission, et on reçoit régulièrement le professeur, nous apprend régulièrement aussi. Mais les chiffres sont édifiants et je conseille à tous les parents et les jeunes qui nous écoutent de se pencher justement sur ces histoires de jeunes auxquels on s'attache, et on se rend compte que cette jeunesse a besoin d'être supportée, aidée, divertie, accompagnée aussi. Et cette période de crise sanitaire n'aide pas, j'imagine aussi, professeur Carilla, les jeunes en train de ramer pour les cours, les étudiants.
Et puis il y a un boom de 25% de problèmes addictifs.
Oui, c'est ça. Qu'évidemment, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui ne fait que favoriser ces comportements à risque. Merci beaucoup, Andrea.
Moi, je voudrais remercier les quatre jeunes qui sont dans ce film, qui sont formidables et qui sont hyper courageux.
Et on s'y attache. Et ils délivrent un discours, je vous assure, c'est scotchant. Merci beaucoup. Merci, Laurent Carilla. Pardon.
Oh non.
Merci, monsieur le professeur Laurent Carilla. Je rappelle donc que vous êtes porte-parole de SOS Addiction.
C'est ça.
On peut se tourner vers SOS Addiction justement on rencontre des problématiques parce que vous pouvez y répondre. Et votre livre Addiction, dites-leur adieu, aux éditions Mango.
J'ai aimé le documentaire et je fais une bise à ma protégée Hélène Donadieu, qui est un des médecins interviewés.
Exactement. Merci beaucoup en tout cas à vous deux. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On remet ça demain dès 14h30 en direct sur RTL. D'ici là, évidemment, faites bien attention à vous. Et puisqu'on peut le faire à la radio, eh bien je vous embrasse. À demain 14h30.
RTL, on est fait pour s'entendre.